Jules Barbet de Revilly, deux anecdotes d'après souper, 1886. Il y a une huitaine de jours, nous soupions, quelques bons compagnons, good fellows, comme ils disent si joyeusement en Angleterre, chez Bess, aux Champs-Élysées, sur la terrasse du côté gauche, au son voisin de la musique du cirque, haché en mesure par le claquement rythmique des fouets qui font cette musique tout à la fois équestre et sauvage. Que de fois je l'ai écouté en rêvant que j'étais clown ou postillon. Or, ce soir-là, plus que jamais, ces coups de fouet retentissants et puissamment évocateurs ressuscitaient pour nous les virtuoses adorées et parties, car elles sont parties. Et le cirque, cette année, a perdu sa couronne. Trois de celles qui nous passèrent le plus près du cœur, quand elles étaient là, revenaient du fond de nos souvenirs au galop dans nos conversations. C'était, ont-il besoin de les nommer, la grande Océana, belle comme son père l'océan, et qui s'en est allée du côté des aurores boréales pour les augmenter d'une de plus. Puis l'O'Brien, cette poésie de Lord Byron dans une statuette de Coasvox, l'étrange et mystérieuse danseuse aux chevilles ailées et à la bouche amère, dont personne n'a pu se vanter d'avoir vu une seule fois le sourire, et enfin et surtout, la pauvre et charmante Émilie Loiset, la chasteté à cheval, et que son cheval a tué, et dont justement, pendant toute la représentation de la veille, j'avais vu, moi, le spectre m'emplir à lui seul, le cirque tout entier, et m'effacer cette foule de vivants qui était venue là, où elle ne reviendrait jamais plus. Et puisque l'absence et la mort est même pire que la mort, car la mort est sérieuse et l'absence est une ironie, la mort nous prend sans se moquer de nous, et l'absence qui ne nous prend pas a l'air de s'en moquer. Nous buvions à la mémoire de cette morte et de ses absentes le coup de l'étrier vidé. Certes, nous aurions dû, par amour et par folie du cirque et de ses amazones, le boire dans nos bottes comme Bassompierre, quand il but glorieusement, plein sa botte à calice, son fameux toast aux 13 cantons. Mais, hélas, fils énervé de ce siècle dégénéré, nous n'avions, nous, pour toute botte à calice, que de frêles calices de cristal, et nous les remplissions non pas d'eau de vie, comme ce titan de Bassompierre, mais de ce mousse-vin de Fleury, qui nous rappelait les fleurs sur fleurs que Shakespeare verse sur Ophélia. Nous allions tourner à l'Hamlet, nous allions tomber dans la griserie mélancolique, au fond la plus détestable des griseries, quand de libation en libation, de souvenir en souvenir, d'écuyère en écuyère et même de cravache en cravache, nous arrivâmes à celle-là qu'un de nous avait oublié sur le bout de la table où nous soupions, et je vis cette cravache qui nous sauva de la mélancolie. Elle était là, au sens d'une main d'écuyère qui la fit vibrer et cingler, couchée bien tranquillement entre deux bouteilles débouchées, comme une petite femme endormie pour avoir un peu trop bu de marasquin, et ce fut elle qui devint l'occasion de deux anecdotes, de deux de ces anecdotes de rien du tout, comme on en dit à table, mais qui sont parfois la grâce des desserts et qui, comme les facettes d'une bague de femme, n'ont guère qu'un chatoiement qui luit et fuit, ou une étincelle qui meurt à la place où elle a brillé. Comment fixer cela ? C'est comme la prospérité des méchants dans les psaumes. On passe et ce n'est déjà plus. D'ailleurs, elles nous furent dites, ces anecdotes, par un esprit qui ajouta sa légèreté à la leur, par un de ces trois ou quatre derniers dandys heureusement attardés encore en ce temps de gommeux, dont la gomme est l'incomparable pâte de bêtise qui englue présentement nos pauvres mœurs. Je voudrais aujourd'hui les dire, ces deux rien du tout d'anecdotes, comme il nous les dit, ce frivole hardi, qui n'avait peur ni des mots quand ils étaient vifs, ni des choses quand quand elles étaient gaies. Voyons donc, essayons. J'étais, nous dit le Talmant de Réau de ces deux historiettes, assis un des soirs de l'été dernier, en face du café du Helder, au boulevard, dos à dos avec trois magnifiques drôlesses. Je tenais dans mes mains cette cravache que vous voyez là, messieurs, et qui a une histoire, car elle a une histoire, et une tragique encore. Le fameux Saint-Rémy dont il est question dans les Diaboliques avait tué avec elle le cocher qui l'avait fait cocu, et après cette belle exécution, il l'avait donné à mon père. Pour moi, qui sais cela, cette cravache est aussi précieuse et sacrée que la Francisque de Clovis. Comme vous pouvez en juger, elle est ornée à son extrémité d'une corne de cerf redoutable, qui ressemble au bec d'un héron ou au nez de mon ami C, que vous connaissez tous. Il l'avait nommée, mais moi, je ne me soucie pas de faire une réclame à ce nez-là. Je jouais, continua-t-il, de cette cravache, dans l'oisiveté de ma nonchalance, quand l'une des drôlesses que j'avais à dos se tourna vers moi de profil, qu'elle avait jolie, et se mit en position de me distraire de ma cravache, mais ce fut un profil perdu. Ce que voyant, elle ôta son gant, monta une main à la l'escourbat, en releva ses cheveux trop embrouillards, saillis sur son front, plaça l'index de cette belle main sur ses lèvres, avec l'air rêveur qu'elles se donnent toutes quand elles font ce geste-là, si plein de promesses qu'on peut toujours nier. Mais je continuais imperturbablement à faire la cour à ma cravache. Alors, n'y tenant plus, « Monsieur, me dit-elle hardiment, vous n'étiez pas timide, pouvez-vous me permettre de regarder cette canne qui vous occupe tant ?»« Qui vous occupe tant ?» C'était un reproche. Et moi, avec l'air le plus anglais, « Ce n'est pas une canne, madame, c'est une cravache. »« Canne ou cravache, permettez, dit-elle. » Et elle allongea vers moi sa belle main. « Oh, je vous permets !» Et je lui tendis ma cravache avec la majesté blasée d'un dandy qui revient des grandes Indes et qui ne veut plus y retourner. Mais elle retourna cette corne de sans façon. Elle se pencha même vers les deux autres drôlesses assises à ses côtés, qui jabotaient entre elles, pour les consulter, leur demander ce que c'était que cette chose-là qu'elle ne devinait pas. Mais à elles trois, elles ne connaissaient ni le nez de C, ni la corne de cerf. Chose étrange que les femmes en plantent tant de ces espèces de cornes qu'elles ne les reconnaissent pas. « Mais monsieur, qu'est-ce donc que cela ?» me dit-elle, piquée, intriguée et curieuse comme une petite fille. « Oh, je fus, je l'ose dire, superbe !»« Madame, fis-je gravement, ceci est de la corne de cocu. Lorsque j'en fais un, je fais monter sa corne au bout de cette cravache, et je la porte pieusement jusqu'au nouveau cocu qui doit la remplacer. » Elle se prit à rire, mais gaiement. Et si elle m'avait trouvé ce que j'étais, superbe, elle fut encore plus superbe que moi. « Eh bien, monsieur, répliqua-t-elle, si nous la remplacions ce soir ?»« Eh ma foi, ce fut si bien dit que j'acceptai la corne qu'elle me proposait et que je la pris par cette corne. »« Cependant, je crois bien que ce ne fut pas un cocu que je fis ce soir-là. Sans doute être... 36. Il s'arrêta. Nous étions ravis de la manière dont il avait enlevé sa baliverne. C'était presque du prince de ligne retrouvé. Et puisque nous en sommes sur cette cravache, fit-il comme s'il s'en ressouvenait, Saint-Rémy, qui avait tué son cocher avec elle, avait pour grand ami le comte de Bazanville, qui le fit cocu ni plus ni moins que son cocher, mais qui lui valait trois cochers. Il était énorme. Ce n'était pas un but, c'était un tonneau. Tellement que Saint-Rémy, qui n'était pas platonicien, aurait très bien pu ne pas en être très jaloux. Il le fut pourtant, et ils se battirent. Saint-Rémy, très fort au pistolet, manqua trois fois cet homme très gros. Furieux et étonné de l'avoir manqué trois fois, il jeta son pistolet de colère et l'enfonça comme un piquet par le bout du canon dans la terre. De la force du coup, il en brisa le chien. « Ce diable de ventre empêche donc tout, » dit Bazanville. « Tu me manques ? J'ai manqué ta femme. C'était à prêter pour un rendu. Ce que je regrette, c'est mon pistolet, » dit tristement Saint-Rémy. « Et moi aussi, » dit Bazanville. Et ils se mirent à rire en se regardant tous les deux. « Allez, n'est-ce pas joli de sous-entendu et de tournure ? Mais si nous n'avions pas le château de la marquise Thérèse, où diable pourrions-nous dire cela ?